lorsqu'on regarde la proportion de nos clients qui utilisent le site web dans leur parcours client, c'est plus de 94 % des clients. Donc, c'est vraiment le site web qui fait vraiment partie, c'est comme la clé de voûte un peu de l'expérience client.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 70e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Pour le 70e épisode de Hypercroissance, j'ai l'énorme plaisir de recevoir une entreprise québécoise qui, je crois, on pourra bientôt appeler un fleuron québécois. Louis-Félix Boulanger, chef des opérations et cofondateur de Bon Look, partage avec nous aujourd'hui l'histoire derrière la croissance fulgurante qu'a connue Bon Look au cours des 10 dernières années. Pour vous donner une petite idée, l'organisation qui a commencé comme un commerce 100% en ligne a été capable, au cours de la dernière décennie, d'ouvrir 37 succursales. Deux d'entre elles ont même été ouvertes pendant la crise de la COVID-19, ce qui témoigne du courage et de la confiance qu'ont les deux fondateurs en leur vision. Dans l'entretien qui dure près d'une quarantaine de minutes, on aborde les thématiques de croissance, de transformation d'un commerce en ligne à une organisation en briques et mortier, de financement et également sur les envies de croissance future de Bon Look. Sans plus attendre, ma discussion avec Louis-Félix Boulanger. Louis-Félix Boulanger, vous êtes chef des opérations et cofondateur chez Bon Look, une entreprise québécoise qui se spécialise dans les accessoires de lunetterie. Vous avez fêté cette année votre 10e anniversaire et malgré la pandémie de la COVID-19, vous avez tout de même été capable de continuer votre croissance en ouvrant une 36e succursale en août 2020 et je viens d'apprendre que vous allez en ouvrir une 37e. Louis-Félix Boulanger, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine.
Louis-Félix, les derniers 12 mois maintenant, on peut le dire, n'ont pas été tout repos pour personne, mais spécifiquement pour une organisation comme la tienne, comme la vôtre, de celle de toi et ta sœur. Vous avez été obligé de fermer momentanément vos 35 magasins l'année dernière pour contrer un peu la propagation du virus. On va d'ailleurs aborder le sujet un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais avant de discuter de cette année folle et également de ce que vous réserve le futur, peux-tu nous partager aujourd'hui comment s'est fondé Bon Look en 2011?
Oui, bonne question. Dans le fond, l'idée initiale de Bon Look vient de ma sœur Sophie. Ma sœur Sophie a toujours été beaucoup intéressée par le monde de la mode. Elle a étudié à l'Université Bocconi à Milan en commercialisation de la mode. Et lorsqu'elle était à Milan, elle en a beaucoup appris sur l'industrie de l'optique, particulièrement un des géants de l'optique est une compagnie qui s'appelle Luxottica qui a fusionné il y a quelques années maintenant avec Essilor, le géant français des lentilles. Et elle a vu que c'était une industrie qui n'avait pas été encore transformée, changée par les nouvelles manières de faire, dans le fond, de la business, du commerce, c'est-à-dire l'Internet et le e-commerce et tous les outils reliés à ça. Donc, l'idée initiale était vraiment de partir une marque D2C, le Direct to Consumer, où on développerait nos propres collections de montures, puis on les vendrait directement aux clients en offrant des lentilles de prescription dans une expérience 100% en ligne. C'est parti de cela et graduellement, on s'est rendu compte que la vente en ligne était capable de répondre aux besoins seulement d'une partie de la population. Et c'est avec ce cheminement-là qu'au fil des années, on a décidé d'ouvrir un petit point de service au départ, suivi de des vraies boutiques là, fermées. Au début, c'était un kiosque et maintenant avec le réseau de 37 boutiques. Là.
Puis, je suis curieux, donc, à la base, ta sœur est revenue avec cette idée-là. Est-ce que, automatiquement, t'as voulu te joindre à l'aventure? Parce que, corrige-moi si je me trompe, Louis-Félix, mais je pense que tu avais quand même un gros poste chez Coveo avant ça, là.
Donc, je travaillais chez Coveo dans les équipes de R&D. J'étais vraiment bien heureux là. Je me suis pas joint à l'aventure Bon Look dans les premiers mois de la fondation de l'entreprise, mais rapidement, ça commençait à occuper mes soirées, mes week-ends avec des appels téléphoniques pour aider Sophie dans les différents choix technologiques qu'il y avait à faire ou les différentes intégrations technologiques qu'il y avait à faire. La première chose que je me rappelle les avoir aidés à accomplir, c'est l'automatisation de l'impression des bordereaux d'expédition pour UPS pour shipper les lunettes, parce que jusque-là tout était retranscrit à la main, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à les aider un petit peu avec ça. J'ai vu qu'il y avait vraiment, c'était un domaine qui avait une belle complexité, qui avait une super opportunité de vraiment investir un peu de temps pour contribuer à digitaliser cette industrie-là. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, ben on a discuté partenariat et je me suis lancé quelques mois plus tard avec eux.
Intéressant. Puis bon, je faisais mes petites recherches avant l'entretien d'aujourd'hui. Puis tu l'as dit plus tôt, vous avez eu une fondation, une empreinte digitale avant de s'implanter avec des boutiques physiques. On enregistre le podcast aujourd'hui, mars 2021. Puis on peut le savoir, là, dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est un avantage clairement d'avoir autant de connaissances, j'imagine, de votre côté sur le monde en ligne. Peux-tu nous dire aujourd'hui comment Bonlook a été capable de bien continuer, on va dire ça comme ça, sa croissance dans la dernière année? Parce que faut le rappeler, vous avez été obligé du jour au lendemain, en mars 2020, de fermer vos succursales, ce qui devait représenter quand même une bonne partie de vos revenus. Vous êtes retourné à une entreprise purement en ligne, j'imagine, pour quelques mois. Comment s'est déroulée cette année-là, là?
Oui, donc ça a été vraiment une année assez rocambolesque. Là, on s'en rappellera à peu près à pareille date. Il y a un an, l'OMS déclarait la COVID-19 comme une pandémie, puis différents détaillants à travers le monde avaient déjà commencé à fermer leurs boutiques pour protéger leurs employés. Une des étapes que nous, on a fait, dont on est vraiment fiers, c'est qu'on a fermé nos boutiques en fait à peu près 48 heures avant que les décrets gouvernementaux tombent dans les différentes régions où on opère. On a choisi de protéger nos employés. En fait, on a eu un cas d'infection en Alberta. On sentait qu'il y avait beaucoup de nervosité, beaucoup de tension auprès de nos employés. Puis c'était vraiment important pour nous de bien traiter nos employés. Nos employés, c'est notre force. C'est avec eux qu'on veut faire tout le chemin qu'on a fait là. Puis c'est grâce à eux qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu. Donc, protéger les employés était notre souci principal. Donc, je dirais la première semaine très tumultueuse à cause que ça a provoqué beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. On a fermé les boutiques rapidement et on a fait le pivot vers la vente en ligne unique. Donc, ça a été quand même un bon défi de logistique juste avec l'aspect traitement des commandes, les clients qui étaient supposés revenir chercher leurs commandes en boutique, ces choses-là. Mais rapidement, on s'est reviré de bord. On a continué à travailler sur nos intégrations système, améliorer notre site web. On a lancé un nouveau site web d'ailleurs en novembre 2020 qui était le fruit d'un dur labeur qu'on a effectué tout le long de la COVID. Puis c'est devenu vraiment important pour nous à partir de ce moment-là là, de continuer à miser sur quoi on misait depuis plusieurs années, c'est-à-dire nos actifs technologiques, notre site web, puis toute l'expérience un peu virtuelle qu'on peut offrir aux clients.
Puis pour situer un petit peu l'audience aujourd'hui, peut-être juste en termes de pourcentage, mettons qu'on regarde votre chiffre d'affaires global, combien représente en termes de pourcentage le volet physique versus le volet en ligne?
C'est ça. Donc, on effectue, quand on regarde simplement où est-ce que la transaction est complétée à 100%, on effectue quand même pas mal de nos ventes en boutique. Là, c'est plus du 3/4 de nos ventes qui sont faites en boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vend des lunettes de prescription, c'est vraiment pas 100% de ta clientèle qui devrait ou qui serait bien servie par un canal 100% virtuel. Plus ta prescription est complexe, plus tu as besoin de lentilles avec des besoins spéciaux, plus il y a une forme d'accompagnement qui doit être fait au moment de placer la commande pour justement choisir les bonnes lentilles et effectuer les mesures de manière adéquate. Il y a certaines mesures qui doivent être effectuées par un professionnel pour avoir un bon taux de succès et une bonne précision pour que la personne ait la lunette de choix. Donc, chez les gens qui ont accès ou qui peuvent commander en ligne avec leur prescription, on a une beaucoup plus forte proportion de ce bassin-là qui utilise les outils en ligne. Mais on a des clients avec qui la relation, disons, le customer journey commence 100% en ligne, mais on va les diriger vers les boutiques pour compléter la commande juste pour s'assurer qu'ils aient la bonne lunette de prescription et la bonne lentille dans le visage.
Intéressant. Donc, si on regarde ça globalement, pendant que vous avez été fermé, est-ce qu'il y a quand même eu un bond en ligne où les gens qui habituellement achetaient en boutique, c'était peut-être trop complexe pour eux là, de terminer, puis se sont dit « garde, je vais attendre un petit peu plus tard là, quand ça va réouvrir pour acheter ce que j'ai de besoin ».
Donc, c'est comme tout un spectrum. Donc, on a vu vraiment un bond de nos ventes en ligne quand les boutiques ont fermé. C'est passé du simple au double là, assez rapidement, puis ça a continué à progresser. Il y a plein de nos clients qui préféraient une expérience physique, mais qui se sont prêtés au jeu d'essayer une expérience en ligne et qui pouvaient le faire. Cependant, il y a aussi toute une partie de notre clientèle qui ne peuvent pas, tout simplement pas commander en ligne, qui ont des prescriptions trop complexes, qui ont besoin de foyers progressifs ou des choses comme ça. Puis ça, malheureusement, on n'était pas capable de les servir durant la pandémie. Ça nous a généré, disons, une vague là, à la réouverture à l'été, après là, une vague d'engouement et d'intérêt, là, comme ils disent en anglais, du pent-up demand, quand on a réouvert. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment, ça dépend vraiment du type de client auquel on parle.
Là. Intéressant. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, mais je vais essayer d'avoir peut-être des anecdotes, si tu es capable de nous en donner quelques-unes. On a parlé vente en ligne. J'aimerais ça parler maintenant des ventes un petit peu hors ligne. J'ai eu la chance, lors de l'épisode 48 de Hypercroissance, de recevoir une dame, une très bonne entrepreneur, Pauline Legnaud, fondatrice de l'entreprise Gemio, qui est une organisation qui vend des bijoux sur mesure en ligne. Donc, eux, à la base, avaient bâti une organisation comme la vôtre, avec une empreinte 100% en ligne. Mais à travers les années, elle s'était rendue compte que beaucoup de ses clients voulaient parler directement avec quelqu'un avant de faire leurs propres achats. J'imagine que vous avez senti la même chose de votre côté, mais as-tu des anecdotes, as-tu des choses que tu pourrais nous raconter aujourd'hui qui vous ont vraiment poussé, là, que vous avez dit « OK, à cause de cet événement-là, on n'a pas le choix d'ouvrir notre première boutique ». Est-ce que même c'était dans le plan initial de se dire qu'à terme, il allait avoir des boutiques bon look également?
Oui, ben ça, c'est drôle parce que récemment, je suis retourné voir les présentations sur l'entreprise des années 2012-2013, ces choses comme ça. Puis on parlait déjà de boutiques physiques et de manifestations physiques parce que dès le départ, quand on s'est penché sur l'opportunité d'affaires, on a réalisé qu'il y avait une proportion de la population qui allait toujours être mal servie par le en ligne. Parce qu'il y a un gros aspect de service relié à l'achat d'une lunette de prescription pour certaines personnes. Donc, dès le départ, c'était toujours un peu en arrière de notre tête puis dans les plans. Ce qui a vraiment été le catalyse pour nous là pour se décider de se lancer puis de le faire, c'est que au fil des années, même si on opérait 100% en ligne, on a commencé à faire des événements éphémères, donc des pop-up shops ou des choses comme ça où on invitait les gens au bureau chef, on sortait, on se faisait un display là, on sortait les valises de lunettes, tout ça, puis on mettait les lunettes disponibles pour consultation, puis on faisait un événement Facebook où on utilisait les médias sociaux pour parler de l'événement. Puis là, on se rendait compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui se déplaçaient là dans nos bureaux dans Saint-Henri au quatrième étage d'une bâtisse dans un coin complètement perdu pour essayer les lunettes puis placer leurs commandes. C'est là qu'on a réalisé que probablement on réglait beaucoup de points de friction reliés à l'essayage en offrant un point de vente physique aux clients. Puis quand on a décidé de se lancer dans l'ouverture de boutiques physiques, on a vraiment pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être la boutique physique la plus efficace. Parce qu'évidemment, quand tu te mets à ouvrir des boutiques, on parle de gros loyers, on parle de plus d'employés pas mal. Donc, il faut s'assurer, si on voulait continuer à offrir une bonne valeur pour le prix, que notre modèle d'affaires change, s'adapte aux besoins d'essayage des clients, mais s'adapte d'une manière à ce que on vienne pas rajouter des coûts puis augmenter le prix qu'on doit charger aux clients.
Puis comment vous y êtes pris un petit peu pour ça? Parce que effectivement, là, du jour au lendemain, tu as des loyers de milliers de dollars, tu as besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. Bien entendu, tu vas avoir une certaine main-d'œuvre en ligne qui va peut-être répondre aux questions, répondre au téléphone, mais là, c'est une main-d'œuvre distincte que tu as de besoin, tu as des obligations. Qu'est-ce que, fondamentalement, vous avez dû revoir là, dans le modèle d'affaires? Est-ce que vous avez peut-être même amené des gens externes qui avaient une expérience dans le briquet mortier qui pouvaient vous épauler dans le cheminement?
Ben pour nous, ça, ce qui a été clé pour bien développer ça, ça a été une forte intégration technologique. On a développé notre propre plateforme de gestion de commandes qui est toute dans le cloud là, chez AWS. Puis, ce que ça nous permet de faire, dans le fond, c'est d'avoir une très forte intégration entre l'expérience en ligne et l'expérience physique. Donc, juste par exemple, les clients, lorsqu'ils se rendent sur notre site web, créent un compte, ajoutent des montures dans leur wishlist ou à leur shopping cart, toute cette information-là va être collectée. Puis, lorsque la personne va se rendre en boutique, ben un employé en boutique va pouvoir ouvrir le profil de l'utilisateur qui est lié au site web, voir un peu qu'est-ce que la personne a fait sur le site, a consulté comme monture, si la personne a déjà soumis sa prescription sur le site web, des choses comme ça. Toute l'information est déjà collectée. Donc, on voit vraiment le site web comme étant un outil pour préparer le client à sa visite en magasin pour que lorsqu'il arrive en magasin, tout soit plus efficace. Je pense que les gens préfèrent ça, préfèrent que ce soit streamliné, qu'il n'y ait pas de perte d'échange d'informations, des choses comme ça. Fait que pour nous, ça a été vraiment la clé de notre expansion retail, ça a été de miser sur le développement de nos outils web. Fait que c'est pour ça qu'au début, quand tu me posais la question au niveau de nos proportions des ventes en ligne versus physique, ça fait partie de la réponse puis de comment on l'évalue, la quantité de ventes qui finissent par se closer en ligne. Mais lorsqu'on regarde la proportion de nos clients qui utilisent le site web dans leur parcours client, c'est plus de 94% des clients. Wow. Donc, c'est vraiment le site web fait vraiment partie, c'est comme la clé de voûte un peu de l'expérience client.
Puis même là, j'imagine qu'au niveau d'initiative marketing, ça doit être exceptionnel. Quant au temps d'information, j'imagine que ça doit vous aider à bien connaître là essentiellement à quoi ressemble votre client type. Peut-être même quel type de produit qu'on doit sortir dans le futur parce que vous êtes capable de voir quelles recherches sont faites, qu'est-ce que les gens d'un certain âge regardent comme différents types de produits. Est-ce que vous avez eu des initiatives marketing que vous avez revues grâce à toute l'information que vous avez collectée à travers le temps?
Oui, il y a diverses initiatives marketing qu'on travaille en connaissant bien les clients puis en étant capable de bien les segmenter. Mais je dirais là où les données puis l'information client a été appliquée à son plein potentiel, ça a été vraiment pour trouver tous les points de friction puis tous les endroits où le client trouvait ça moins facile par rapport avec nous. Puis on a vraiment focusé sur l'expérience client puis s'assurer que c'est facile faire affaire avec Bonlook, que les gens aiment l'expérience, trouvent les produits qu'ils cherchent, des choses comme ça. Donc, ça, je dirais que ça nous a permis de s'assurer que notre catalogue produit était complet, autant au niveau des montures que des lentilles, puis de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de friction quand vient le temps d'intégrer vraiment l'expérience en ligne avec l'expérience retail. Puis, ça nous permet aussi de trouver des fois des moments, des plages horaires où peut-être l'expérience en boutique est moins bonne, peut-être qu'on a certains enjeux avec le staff, peut-être qu'il y a différentes affaires. Donc, ça nous permet quand même de s'assurer d'offrir un bon niveau de service à nos clients.
Intéressant. Et on va continuer un petit peu sur le volet hors ligne que je trouve assez fascinant. Puis corrige-moi si je me trompe ici, mais en faisant mes recherches, j'ai l'impression que chaque succursale que vous avez, ce n'est pas fait sous forme de franchise. Vraiment, tout est relié à la corporation. Est-ce que je me trompe ici?
C'est exact. C'est 100% des magasins corporatifs.
Puis je suis curieux. Pour quelle raison vous avez opté pour un système comme ça? Clairement, vous avez un meilleur contrôle sur l'expérience client. Chose que tu as dit plusieurs fois, ça peut être joué dans la balance ici. Mais est-ce que dans le passé, vous avez peut-être eu l'idée de se dire, dans notre prochaine expansion, peut-être même votre expansion dans le sud que j'ai cru comprendre que vous vouliez aller au niveau des États-Unis, vous voudriez peut-être ouvrir des franchises. Est-ce que ça a été dans les discussions, dans les réflexions de votre côté?
Oui, c'est une option qui revient souvent sur la table, qu'on considère tout le temps. La raison pourquoi on a choisi de pas aller vers cette avenue-là pour commencer, c'était de s'assurer de bien contrôler, comme tu l'as dit, l'expérience client et l'expérience en magasin, comment les magasins allaient être configurés, comment l'affichage allait se faire, qu'est-ce qu'on met sur les tablettes où, comment on forme les employés, comment on s'assure que les commandes se rendent bien puis que le client reçoit un bon niveau de service pour que l'expérience qui est associée à la brand soit vraiment le plus perfectionné possible et le plus perfectible possible. Donc, c'était vraiment l'aspect un peu de laisser aller du contrôle sur comment on allait structurer les opérations. On se trouvait trop jeune, pas encore mature dans notre modèle quand on s'est mis à ouvrir des magasins pour prendre un risque ou pour déléguer, disons, ça de manière aussi forte là, en allant chercher des franchisés. Donc, ça a été vraiment ça qui a poussé la décision.
Êtes-vous rendu là maintenant? Parce que là, après 37, tu commences à avoir un bon playbook de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas.
Ouais, ben c'est sûr que ça commence à être beaucoup plus rodé sur comment on structure la gestion de nos boutiques, puis comment on forme les employés, puis tout ça. Mais on est encore des boutiques qui ont un taux de croissance organique, là, ce qu'on appelle les same store sales dans le retail, avec un fort pourcentage. Donc, le modèle est pas encore 100% mature. On n'a pas encore retiré toute la valeur qu'on est capable de retirer de nos espaces de retail. Puis, on est toujours en train de parfaire notre formule puis notre recette. Mais ça, j'imagine que même les compagnies qui sont beaucoup, beaucoup orientées vers les franchisés diraient qu'eux aussi font des choses comme ça. Fait que là où notre réflexion évolue beaucoup ces temps-ci, c'est de s'assurer qu'on est capable de regarder d'autres modèles d'affaires et d'autres manières de monétiser un peu tout ce qu'on a développé, notamment notre plateforme technologique, les outils, l'intégration en ligne et l'intégration physique. On pense qu'on aurait potentiellement un rôle à jouer dans l'écosystème de l'optique, de pas juste prendre nos outils internes comme un atout technologique à nous, mais de vraiment venir démocratiser ça puis aider vraiment tous les acteurs de l'industrie à mieux servir leurs clients.
Donc, est-ce que tu es en train de me dire que vous êtes en train de développer un logiciel SaaS qui pourrait être une nouvelle organisation que vous bâtissez présentement?
Oui, on travaille sur ça depuis plusieurs mois. On n'est pas prêt de lancer rien aujourd'hui à ce jour, mais c'est clairement quelque chose sur lequel on mise parce qu'on pense qu'on a développé une manière d'améliorer la relation client qui peut vraiment faire une différence auprès de l'industrie de l'optique en général. Puis, on considère que pour aller retirer le plein potentiel de ça, il faudrait que ça se décline sur beaucoup plus que la marque Bon Look uniquement, parce qu'on pense pas non plus que 100% de la population canadienne ou nord-américaine va porter des lunettes Bon Look. Là, on pense, d'habitude, le domaine de la mode, c'est pas un domaine monopolistique comme, disons, les engins, les moteurs de recherche, ces choses-là. Là. Donc, on pense vraiment qu'il y aurait l'opportunité d'offrir ce qu'on a développé à d'autres gens. Là.
Ah, c'est intéressant ça. Puis c'est une très bonne manière de le voir parce que à un certain point, c'est ça, à une entreprise, on développe de l'intelligence sur un paquet d'aspects. Puis éventuellement, toutes ces différentes intelligences-là, ça devient un peu des profit centers. Puis là, maintenant, tu peux te poser la question, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ces différents profit centers-là? Puis de penser à en faire peut-être une entreprise à part entière, c'est quand même une vision très intéressante. Je voudrais continuer un petit peu ici, financement. Bon, vous avez 37 succursales, vous avez une empreinte en ligne qui est assez impressionnante, mais vous avez quasiment pas pris de financement externe. Je faisais mes recherches, puis encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, je crois que vous avez fait quelques rondes, la dernière date de 2017, donc peu d'argent de ce que j'ai été capable de voir. Qu'est-ce qui vous a poussé à, encore une fois, s'auto-financer et faire ça par vous-même parce que vous êtes allé vite et vous l'avez fait avec ce que j'ai vu avec pas beaucoup d'aide.
Oui, ben tout est relatif, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on est des entrepreneurs peut-être à la sauce canadienne. Je pense que les entrepreneurs, disons au nord de la frontière des États-Unis, ont tendance à être très différents des entrepreneurs aux États-Unis à ce niveau-là où les compagnies prennent des gros montants de financement. C'est un peu la mentalité « go big or go home ». Je pense que nous, on a toujours voulu, comme entrepreneurs, s'assurer d'être très « capital efficient ». C'est un terme qu'on utilise souvent aux finances ici, c'est-à-dire juste être vraiment judicieux sur où est-ce que les dollars sont investis, puis prendre des risques calculés le plus possible. Sans vouloir dire qu'on a une aversion au risque, c'est plus qu'on veut s'assurer qu'on sait les risques qu'on prend, puis les bénéfices associés. Ceci étant dit, on a été vraiment chanceux de trouver un partenaire financier en Walter Capital Partners, là, qui est le financement auquel tu faisais référence. Ça, ce partenaire financier-là était là avec nous, puis il y a eu la ronde initiale là, qui a eu un news release, mais il y a eu des réinjections. Ça faisait partie du plan initial pour le déploiement pan-canadien. Une fois qu'on a trouvé notre formule, là, pour la petite histoire, on avait ouvert un petit kiosque au centre-ville de Montréal, suivi d'une boutique fermée à Fairview-Pointe-Claire, suivi d'un espace retail là, au Carrefour Laval. Donc là, on commençait à avoir une bonne idée de notre modèle d'affaires et de notre formule retail. Puis avec assez de confiance, on est allé voir les financiers avec un plan d'affaires qui dit ben on a trouvé une formule qui fonctionne, qui mixe le online et le physique, et là on veut prendre de l'expansion. Fait que c'est un peu comme ça que l'aventure est arrivée. je pense que la clé du succès pour nous, ça a été d'aller chercher du financement pour scaler et non aller chercher du financement pour faire un peu de l'essai-erreur puis de l'idéation. Ça, on a essayé de le faire le plus bootstrappé possible.
Parce que ça coûte cher, hein? Ça coûte cher si tu vas chercher du financement au départ, t'as pas une preuve de concept, ben bien entendu, la valeur de l'entreprise va être basse. Donc, donner 20, 30, 40% d'équité dès le début, ça coûte cher, hein? Comparativement à une organisation qui a déjà un petit peu le vent dans les voiles, la valorisation va être plus élevée. Là, ça peut être plus facile d'absorber, là. Puis également faire plus de sens, parce que s'il y a de l'argent qui est injecté quand l'entreprise a déjà le vent dans les voiles, ben ça devient un petit peu comme de l'huile sur le feu comparativement à de l'argent qu'on donne à des on appelle ça souvent des first-time funders, que là, ils ont beaucoup d'argent entre les mains, ils savent pas trop quoi faire avec ça. Des fois, ça peut mal tourner.
Oui, c'est sûr. Puis je pense qu'en tant que fondateur, si tu veux avoir une bonne relation avec tes créanciers ou tes investisseurs, t'es mieux d'arriver avec un plan un petit peu plus concret, puis d'essayer de minimiser un petit peu l'aspect incertitude ou volatile de ton plan d'affaires. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que l'argent peut plus aider. Puis l'argent ne sera pas capable de faire de l'idéation ou de l'essai-erreur pour toi. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur, on est capable de se débrouiller avec des moyens du bord pour aller tester puis aller chercher un peu d'assurance sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas.
C'est quoi les prochaines actions vraiment de Bon Look? Donc, tu me disais, puis félicitations d'ailleurs, vous allez ouvrir une 37e succursale dans les jours, semaines qui vont suivre. Semaines qui vont suivre. Bon, félicitations, c'est assez exceptionnel, tout ça, surtout au moment où est-ce qu'on est présentement. Si on parle le marché américain, le marché pan-canadien, vous avez quand même une certaine empreinte. À quoi que ça ressemble un petit peu vos envies d'expansion présentement?
Donc, on pense vraiment qu'il y a une opportunité pour densifier notre présence, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Donc, on voit l'opportunité de quand même pas mal plus de boutiques Bon Look au Canada. On regarde aussi très attentivement les opportunités qu'il pourrait y avoir sur le marché américain pour prendre de l'expansion à ce niveau-là. Il y a les opportunités aussi au niveau B2B là, d'avoir une plateforme logistique et de software pour d'autres clients aussi sur lesquels on travaille activement. Donc c'est pas mal ça les projets qui nous gardent bien occupés. On s'attend aussi honnêtement à un déconfinement puis à une relance là, donc sur le très concret, le très court terme, on met quand même pas mal d'efforts en ce moment à s'assurer que quand tout va réouvrir, que ça va se faire de manière bien ordonnée puis qu'on va avoir tout ce qu'il faut, tout ça, parce que veut pas une forte variabilité juste de la quantité de gens qui viennent dans nos magasins ou qui veulent commander des lunettes, ça peut mettre quand même certains défis sur l'expérience client, juste s'assurer de fournir le service avec un bon niveau de qualité, un bon responsiveness, une bonne rapidité pour les clients. Donc là-dessus aussi on travaille bien fort là, pour s'assurer qu'on est là pour nos clients.
Très intéressant. Maintenant, je terminerai avec mes questions favoris. C'est des questions personnelles. Donc, j'aimerais savoir, Louis-Félix, est-ce que tu lis un petit peu? Est-ce que tu lis certaines lectures d'affaires?
Oui, j'aime beaucoup les livres de business. Donc oui, j'en ai quelques-uns.
Qu'est-ce qui a marqué ton attention dans la dernière année ou peut-être même dans les 5 dernières années?
Ben, je dirais, là, il y a quelques semaines, il y a un livre qui s'appelle Working Backwards qui est sorti, qui a été écrit par des gens, vraiment des anciens employés d'Amazon, vraiment haut placés. Un des auteurs était l'ancien chief of staff de Jeff Bezos, qui explique un petit peu tout comment Amazon s'est structuré pour faire ses planifications stratégiques, développer ses projets, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça fascinant comme livre. Puis là, en ce moment, je suis en train de lire un autre livre d'affaires qui s'appelle Multipliers, sur comment avoir la bonne attitude auprès des gens qui nous entourent pour être un multiplicateur de potentiel au niveau des gens autour de nous, juste pour s'assurer d'être un leader, disons, positif, quelqu'un qui est capable de faire ressortir le meilleur des gens avec qui il travaille.
Wow, le premier livre que tu as mentionné, je pense que je l'achète juste après le podcast aujourd'hui. Non, mais d'entendre les gens proches de Bezos, ouais. Moi j'ai lu son livre que je trouvais assez fascinant. J'ai lu beaucoup de livres sur la culture d'Amazon, dans la manière qu'ils sont capables d'opérer leur entreprise, là, comprendre tous les détails là, c'est assez intéressant d'avoir cette information là.
Ah, j'ai trouvé ça fascinant, puis le livre est séparé en deux parties là, pour la petite histoire. Puis la première partie a été écrite par la personne la plus senior qui a été dans le fond, je me rappelle plus c'est quoi le terme, là, je pense que ça a été comme le jumeau, dans le fond, il était dans 100% des meetings où Jeff Bezos était pendant plusieurs années. C'est lui qui a succédé à la personne qui va maintenant devenir le CEO de Amazon. Donc, c'était vraiment c'était très intéressant, toutes les anecdotes qu'il y avait. Puis juste tout le thinking derrière, comment ils ont structuré une entreprise qui est rendue à plusieurs centaines de milliers d'employés.
Là. Ouais, exactement. Je pense que leur capitalisation boursière a passé le trilliard. Là. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, ce chiffre-là. On l'utilise rarement, là. Mais non, c'est assez exceptionnel la croissance d'Amazon. Parlons de contenu, podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Oui, j'en écoute plusieurs. J'aime beaucoup tous les podcasts qui sont reliés à l'entrepreneuriat. Donc, il y en a un de Toronto qui s'appelle E2 Entrepreneur que j'aime bien. J'aime bien aussi écouter tout ce qui est podcast géopolitique, des choses comme ça. Fait que j'écoute souvent des émissions aussi via podcast, okay. Des choses comme ça. Donc, je prends mes nouvelles aussi, les podcasts du Wall Street Journal, des choses comme ça. Pas mal de contenu anglophone, je dois dire, là, je dois l'avouer.
Puis, je terminerai, as-tu des routines un petit peu avant de travailler, pendant le travail ou peut-être même après?
J'essaie de vraiment avoir mes journées assez planifiées, assez cordées pour être le plus productif possible. Donc, j'ai un petit peu de routine reliée à la gestion de mon calendrier pour m'assurer que je dédie assez de temps aux différentes sphères de ma vie, que ce soit ma conjointe, mes enfants ou mon travail. Donc, bien équilibrer ça. Ça a été le secret de ma productivité dans les dernières années, je dirais. Puis sinon, ben j'essaie de prendre le temps d'aller dehors, prendre l'air un petit peu aussi, surtout en période de confinement, pandémie, on sort plus de chez soi sinon. Ouais. Donc, un peu de routine reliée à ça aussi.
As-tu des hobbies spécifiques en dehors du travail aussi que tu aimes faire pour essayer de t'aérer la tête un petit peu, changer le mal de place?
Oui, un skieur. Je suis dans une famille de skieurs. On est vraiment toute la gang des skieurs, donc on skie pas mal. Sinon aussi, mon gars, il patine, il joue au hockey. Donc, j'aime bien ça, aller lancer la puck, échanger la puck avec lui. Il y a un étang gelé proche du chalet, là, donc je fais ça une fois de temps en temps.
Bon, ben merveilleux. Louis-Félix, félicitations pour votre belle entreprise que vous avez Merci. Été capable de faire croître avec ta sœur dans les 10 dernières années, que vous avez été capable de passer à travers la COVID et d'ouvrir, je tiens à le mentionner là, pour les gens qui nous écoutent, une succursale en août 2020, une nouvelle qui, mars-avril 2021, va voir le jour. Vous n'avez pas fermé de succursale non plus, de ce que j'ai cru comprendre.
Non.
Elles sont toutes réouvertes. Une ascension des ventes en ligne également. Donc, tout ça, ben finalement, n'a pas été tellement compliqué votre dernière année. Vous en êtes bien sorti. Félicitations pour ça. Et peut-être, bon, pour les gens qui voudraient en prendre un petit peu plus, j'imagine, votre site web, médias sociaux, meilleur endroit pour vous retrouver.
Oui, bonlook.ca, pas mal d'informations là. Puis évidemment, ben, venez nous voir en boutique si c'est possible pour vous dans une des 37 boutiques au Canada.
Bon, ben merveilleux. Merci beaucoup Louis-Félix. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Assez fascinant de voir que même pendant une crise sanitaire, les fondateurs derrière Bonlook ont été capables de trouver le courage et l'ambition de continuer à ouvrir de nouvelles succursales. Également, j'ai été impressionné par la vision de Louis-Félix de vouloir commercialiser la solution en ligne qu'il a bâtie pour Bonlook au cours des dernières années. Comme quoi, il y a souvent des entreprises cachées à même votre propre organisation. Également de lancer nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement séparées à G7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.